Deutsche Welle. Droits et libertés.
Le 28 juin, c'est le Christopher Street Day, une journée durant laquelle plusieurs défilés sont organisés chaque année dans le monde pour défendre les droits des LGBT, lesbiennes, gays, bi et transsexuels. Dans de nombreux pays, les clichés sont pourtant tenaces et les membres de cette communauté sont persécutés du fait même de leur orientation sexuelle. Et c'est de cela dont nous parlons cette semaine. Au micro, Sandrine Blanchard, bonjour à tous. En Ouganda, l'homosexualité est interdite par la loi. Les gays et les lesbiennes font souvent l'objet de menaces et d'agressions, voire même parfois de viols. Certains homosexuels ont déjà été assassinés en raison de leur orientation sexuelle. Kacha Nabagesera a donc décidé de se battre pour changer les choses. En dépit des dangers, elle a fondé le magazine Bombastique pour défendre les droits de la communauté LGBT, lesbienne, gay, bi et transsexuelle. Et elle organise un défilé annuel depuis 5 ans maintenant. Je vous propose de réécouter son portrait réalisé en 2015. Il est signé Grit Hoffman et Ali Farhat.
Kacha Nabagesera se bat pour les droits des gays et des lesbiennes en Ouganda. Tout le monde connaît son visage, c'est pourquoi elle évite les endroits publics.
J'ai été frappée tellement de fois que j'en ai perdu le compte. Sur les réseaux sociaux, des gens ont promis que s'ils m'attrapaient, ils m'arracheraient la tête, ils me rouleraient dessus avec un camion, ce genre de choses. Je dois vraiment faire attention.
S'il est difficile pour cette femme de 36 ans de sortir de chez elle ces derniers temps, elle estime tout de même qu'il y a un côté positif à ces menaces. En effet, les gens ne peuvent plus nier la présence de gays et de lesbiennes en Ouganda.
Je vis ici avec ma partenaire ainsi qu'avec mon cousin et son amant. Dans cette villa, il y a aussi d'autres personnes qui vivent ensemble en secret. Ils se font passer pour de meilleurs amis quand d'autres prétendent être mariés. Vous êtes ici dans le village rose de l'Ouganda.
Il y aurait 500 000 gays et lesbiennes en Ouganda. En vérité, les chiffres seraient plus importants. Cette communauté tente de changer le comportement de la population, d'où la création d'un magazine nommé Bombastique à destination des hétérosexuels, ou encore une parade annuelle qui fête déjà son 4e anniversaire.
Ce sont des gens avec qui nous vivons, des gens qui nous jettent des pierres, nous abusent sexuellement. Pourtant, nous avons besoin d'eux. Ce n'est que comme cela que nous pouvons minimiser les dangers.
L'année dernière, les autorités ont voulu introduire une loi punissant sévèrement l'homosexualité. Finalement, sous la pression internationale, le projet avait été retiré. Au sein de la population, on se heurte à un mélange d'ignorance, de réserve et d'appréhension.
Je suis absolument contre l'homosexualité. Si un homme couche avec toi, tu vas aller en enfer.
Mais si tu es pauvre et que des gays veulent coucher avec toi, tu peux gagner un peu d'argent.
Cela regarde chacun d'entre nous. Si tu ne veux pas devenir homo, tu n'es pas obligé.
Cette année, Kacha Nabagesera a remporté le prix Right Livelihood, le prix Nobel alternatif. Une récompense qu'elle partage avec deux autres activistes.
Il existe de nombreuses associations sur le continent africain pour défendre les droits des homosexuels. Pour leurs militants, il n'est pas question de promouvoir l'homosexualité, c'est-à-dire qu'ils ne veulent pas convaincre les hétéros de virer leur cutie. Non, ils et elles réclament simplement le droit de vivre leur sexualité comme ils ou elles l'entendent, et de faire ce que bon leur semble dans leur chambre à coucher entre adultes consentants. Pour mieux comprendre de quoi ils retournent, je vous propose d'écouter un entretien avec Caroline Tani. Elle travaille pour la Coalition des lesbiennes africaines, CAL en anglais, un réseau de défense des droits des LGBT basé en Afrique du Sud.
Allô ?
Allô, Caroline ?
Oui, bonjour. Mon nom, c'est Caroline Tani. Je travaille pour la Coalition des lesbiennes africaines. Je suis responsable des programmes en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale.
Cette coalition, elle regroupe une trentaine d'organisations. Qu'est-ce que c'est que ce réseau? Comment fonctionne-t-il?
C'est un réseau qui est basé sur les membres, en fait. Donc, ils sont basés en Afrique subsaharienne. La principale activité de CAN, c'est de faire du plaidoyer pour les droits des femmes.
Alors, pourquoi cette nécessité de s'organiser en réseau?
Parce que il y a beaucoup de décisions qui se prennent en matière de sexualité, qui se prennent en matière de droits humains au niveau régional. Donc, les États nationaux vont suivre certaines décisions ou certaines résolutions qui sont prises par l'Union africaine pour établir leur législation, leur politique, en fait.
Si j'ai bien compris, CAL s'adresse à la fois aux dirigeants et aux décideurs africains, et aussi, évidemment, aux femmes lesbiennes qui ont besoin d'aide.
Une grosse partie du travail qu'on fait est vraiment orientée sur les femmes avec lesquelles on travaille. Mais par contre, on ne peut pas se le cacher qu'il y a, dans tout le continent, un environnement légal, un environnement culturel qui est très, très répressif, qui n'est pas très tolérant. Et donc, une partie de notre travail va être aussi d'essayer d'influencer les décideurs et les législateurs, en fait.
Et en Afrique francophone, Afrique de l'Ouest, Afrique centrale, on entend souvent dire que l'homosexualité a été importée par les Occidentaux. Comment est-ce qu'on lutte contre ce préjugé? Et d'abord, est-ce bien un préjugé?
Oui, en fait, c'est totalement un préjugé parce que si on regarde l'histoire et les multiples recherches qui ont été faites sur l'Afrique précoloniale, on se rend compte directement que l'homosexualité a toujours fait partie de nos cultures. Je pense qu'il faut se rappeler que dans nos cultures, à travers le continent, on avait diverses formes acceptées, il faut se le dire, là, acceptées d'homosexualité dans nos sociétés, quoi. Je pense qu'il faut se rappeler aussi que c'est l'arrivée des colonialistes, donc l'arrivée des Français, l'arrivée des Britanniques, qui a introduit un système législatif qui criminalise l'homosexualité. Avant cela, ce n'était pas officiellement établi, ou du moins, s'il y avait une certaine répression de l'homosexualité, elle n'était pas formelle, quoi. De ce qu'on constate, c'est l'arrivée des colonialistes et l'arrivée des religions qui découlent du colonialisme, donc la religion chrétienne, l'islam, qui ont introduit une criminalisation de l'homosexualité dans le continent.
Comment expliquer que l'homosexualité, encore aujourd'hui, fasse autant peur? Puisqu'on entend souvent des gens dire que, même s'ils sont ouverts et que, en théorie, ils n'ont rien contre les homosexuels, qu'ils les tolèrent dans leur société, ils préfèrent quand même que leurs enfants ne soient pas homosexuels, par exemple.
Ben effectivement, en fait, je pense que c'est le choix, c'est le désir, en fait, de tout parent d'espérer que son enfant se conforme à la majorité, quoi. Je pense que la peur existe parce qu'on n'a pas nécessairement résolu de discuter de questions de sexualité comme quelque chose qui est normal et qui fait partie de la vie de chaque être humain, en fait, d'être amoureux, d'avoir un partenaire, etc., etc.
Mais on pourrait penser que l'orientation sexuelle relève de la sphère privée, c'est-à-dire que chacun est en droit de décider de ce qu'il fait de son propre corps. Enfin, c'est en tout cas ce qu'il y a aussi dans les textes, dans les déclarations de reconnaissance des droits humains qui ont été ratifiées par la quasi-totalité des États africains.
Exactement. Dans la majorité de nos États aussi, il y a une séparation entre l'État et la religion. Cette séparation-là est là pour respecter les diverses croyances religieuses de chacun et s'assurer que chacun est égal devant la loi.
En Afrique du Sud, notamment, il y avait eu aussi toute une vague de viols correcteurs, où on a violé des femmes lesbiennes pour les guérir, soi-disant, de leur homosexualité.
C'est une pratique qui est toujours présente, et ça vient aussi d'une perception que l'homosexualité ou la bisexualité, par exemple, est quelque chose qui est une maladie. Je pense qu'il faut mettre aussi en contexte que les viols correcteurs, ça font partie de certaines pensées qui est très présente, et le patriarcat, quoi. Donc, le corps de la femme ne lui appartient pas. Le corps de la femme appartient à l'homme qui la désire, au père, au frère de la famille, quoi. Donc, il y a aussi tout un discours qui doit être fait ou une réflexion qui doit être faite par rapport à qui est responsable de mon corps, l'autonomie que j'ai par rapport aux décisions qui sont relatives à mon corps.
Et pour les jeunes filles, peut-être, qui nous écoutent, comment est-ce qu'on se rend compte ou comment on peut se dire qu'on est homosexuel ou bisexuel quand on découvre peut-être sa sexualité à l'adolescence ou avant?
En fait, il n'y a pas de solution magique, quoi. Ça dépend de chaque individu. Mais je pense que la première chose à se dire à soi-même aussi, c'est qu'on n'est pas anormal. D'aller chercher du support principalement. Il y a plusieurs groupes qui existent dans différents pays de l'Afrique qui peuvent les conseiller sur comment approcher leur coming out, comme on dirait, ou non, en fait, leur sortie du placard, je dirais, ou non, avec leur famille, leurs amis, leur environnement. Bon, on est un réseau, mais il y a aussi un réseau d'hommes homosexuels qui est présent en Afrique, qui s'appelle AMCHER. Donc, sur nos sites web respectifs, il y a la liste de nos membres. Puis, je pense que les gens doivent se sentir à l'aise de contacter les membres.
Mais j'avais été frappée en discutant avec un ami ouest-africain, au moment où en Europe on parlait, et en France notamment, on parlait beaucoup du mariage homosexuel, c'est-à-dire d'autoriser des personnes homosexuelles à se marier, et qui m'avait dit « Oh mais ça c'est la porte ouverte à tout autoriser, pourquoi pas autoriser l'inceste aussi, ou la pédophilie ?» Et donc l'homosexualité est toujours ramenée à quelque chose, au tabou ultime.
Oui, en fait, cet argument-là, pour moi, n'a pas de valeur, en fait, parce que la question qui est autour de qui couche avec qui, c'est une question de consentement. Et dans le contexte où on a deux personnes qui sont en capacité de faire un choix raisonné et logique, donc elles sont consentantes, je ne pense pas qu'on a à s'interposer. La pédophilie, c'est quelque chose d'autre parce que on parle d'un adulte qui a des relations sexuelles avec un enfant qui n'est pas légalement en mesure de consentir. La même chose pour un animal, quoi. Donc, on ne peut pas obtenir un consentement d'un chat ou d'un chien.
Merci beaucoup, en tout cas, Caroline.
OK, merci beaucoup. Plaisir.
C'est la fin de ce magazine. Merci à Grete Hoffmann, Ali Farhat et Caroline Tani. N'hésitez pas à réagir en nous écrivant à français@dw.com. Salut et à la semaine prochaine.